Il me paraît fondamental, tellement fondamental que depuis 40 ans, je crois que je ne vous raconte que ça chaque dimanche. Ça me paraît fondamental, ça me paraît être la tradition profonde de l'Église, la conscience profonde de l'Église. Et pourtant, il me semble aussi que le sujet est souvent escamoté, voire quelquefois contesté. Penser le contraire de ce que je vais vous dire me semblerait être un retour au pharisianisme des Juifs que justement le Christ condamné pour leur hypocrisie en les nommant sépulcre blanchi. Et pourtant, ce thème que vous allez reconnaître immédiatement, ce thème est la seule explication, expression de la bonne nouvelle que le Christ nous a apportée, auquel il nous a initiés en s'incarnant. De toute évidence, le Seigneur n'est pas venu pour restaurer un ordre politique. Même les apôtres se sont cassés les dents à ce sujet-là, qui attendaient eux aussi une restauration du royaume historique d'Israël. De toute évidence, il n'est pas non plus venu guérir et soigner tous les malades et tous les éclopés. D'abord, il en est resté encore beaucoup, même de son vivant visible. Mais sinon, son œuvre serait vraiment un échec, car depuis 2000 ans, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas guéri tous les malades. Même si ça peut arriver qu'il manifeste sa puissance en guérissant quelques-uns et pas qu'un petit peu. Il nous apporte une autre bonne nouvelle. C'est notre acquisition, notre entrée, notre introduction dans un autre monde, dans ce qu'il appelle le royaume de son Père, ce que nous appelons le ciel. Et c'est d'autrement plus important. Les miracles pour notre santé ou les restaurations d'un ordre politico-social ne peuvent être que pour un moment. L'entrée dans le royaume des cieux, c'est définitif, c'est-à-dire c'est éternel. Pour cela, il faut comprendre que ce que le Seigneur appelle le royaume de son Père, le royaume des cieux, ce que nous appelons le ciel, ce que nous appelons le paradis aussi, tout ça c'est des termes justes, mais n'indique pas un lieu idyllique où on vivrait vêtu de pagne en peau de panthère, sous les bananiers et les cocotiers, avec les lions et les buffles qui viendraient nous lécher les pieds, les serpents auxquels on pourrait donner des ordres. C'est pas un tel paradis. C'est même pas un paradis où la mort n'existerait plus, la souffrance n'existerait plus, la mort, la maladie n'existerait plus. C'est un autre monde. Un autre monde qui existe déjà dans notre cœur, auquel nous participons, dont nous avons déjà la connaissance, et qui, après ce deuxième accouchement qu'est la mort, doit se révéler pour chacun de nous en plénitude. Avouez que c'est une autre perspective. Et on comprend que c'est tellement hors de nos catégories humaines, hors de notre conscience rationnelle et scientifique, qu'on a du mal à le présenter et à y adhérer. Et pourtant, plus j'avance en âge, plus il me semble que là est précisément le nœud de notre foi, le nœud de la révélation chrétienne. Après cette longue introduction, j'en arrive à l'explication de deux ou trois phrases que nous avons entendues pour la énième fois dans l'épître de ce matin. Saint Paul dit aux Galates, c'est-à-dire à nous, « L'homme n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi. » C'est-à-dire que ce qui nous justifie, autrement dit ce qui nous sanctifie, ce n'est pas l'accomplissement de quelque règle que ce soit, de quelque idéal que ce soit. Mais il est plutôt justifié, ajoute-t-il, par la foi du Christ Jésus. Et là, il faut faire très attention à ces termes. Contrairement à beaucoup de traductions que nous avons du Nouveau Testament, il n'est pas dit que l'homme serait plutôt justifié par la foi en Christ Jésus. C'est-à-dire de croire en lui, de croire à son existence, de croire même qu'il est Dieu. Ça, c'est pas ça qui nous justifie, c'est pas ça qui nous sanctifie. Mais Saint Paul nous dit par là que l'homme est justifié par la foi du Christ lui-même, par sa foi. Et comment cela peut se faire? Je change un tout petit peu le terme volontairement pour vous faire comprendre quelque chose, bien que la traduction exacte, c'est foi. Hein. Mais j'oriente un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que la foi du Christ? C'est la confiance, l'engagement total qu'il a à l'égard de son Père. C'est cette confiance absolue, cette communion absolue qu'il voue à son Père. C'est ça qui est sa foi et c'est ça qui nous justifie. Alors après, comment? Si Saint Paul dit vrai, évidemment, je ne suggère pas qu'il ne dise pas vrai. Si Saint Paul dit vrai, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'attitude intérieure de Jésus, sa foi, sa confiance, rejaillit sur nous. Non pas seulement comme un modèle où il faudrait apprendre à aimer, à avoir confiance, à croire, à avoir la foi, comme lui là. Mais Saint Paul dit, c'est par la foi elle-même du Christ. Donc c'est que d'une manière ou d'une autre, la foi le Christ croit, fait confiance en son Père, mais nous communique cette foi. Ça veut dire, et ça je le présente bien souvent tout au long de l'année, ça veut dire qu'il y a une intimité d'existence, pas d'exemple, mais une unité ontologique entre le Christ et chacun de nous. La foi même, la confiance même du Christ se communique à nous. Elle nous touche d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait dire, après, un peu plus loin, à saint Paul, je suis crucifié avec le Christ. Et ça, il faut l'entendre, non pas d'une manière imagée, par ma propre souffrance, ça m'associe, ça me fait ressembler au Christ qui lui-même souffrait. Non, c'est que réellement, en Christ, puisque nous sommes un, je suis crucifié. Comme je participe à sa foi, comme sa foi rejaillit sur moi, son sacrifice, sa crucifixion rejaillit sur moi. S'il meurt, s'il souffre et s'il meurt, c'est que il prend ma souffrance et ma mort sur lui, non pas en imitation, non pas d'une manière seulement morale, mais réellement, ma mort et ma souffrance sont sa mort et sa souffrance. Évidemment, conclué, mais aussi sa résurrection. Là, elle but, bien sûr. Je suis crucifié avec le Christ. Je vis, il insiste, saint Paul, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. Celui qui vit en moi, c'est le Christ. C'est-à-dire que notre vie réelle consiste à se dépouiller de nous-mêmes, à entrer dans notre kénose, entrer en kénose, c'est-à-dire en renonçant à ce qui nous est individuel pour nous greffer, et c'est ça le but du baptême, pour nous greffer en Christ, pour que nous devenions vraiment le Christ. Et si cela est vrai, on peut dire que toi, tu es le Christ. Non pas une parcelle du Christ, mais la totalité du Christ. Celui qui vit en moi, c'est le Christ, même si pour l'instant, pour le moment, je vis, j'ajoute encore, mais je vis dans la chair. Si je vis encore la chair, entendez, ce mode d'existence qui est le mode que nous connaissons sur Terre, dans cette nature déchue, où chacun a son individualité, chacun sa personnalité, chacun semble séparer. Si nous avons une perception plus ou moins logique, rationnelle, intelligible du monde, même si pour l'instant nous sommes encore voués à une certaine mort, la mort de cette chair, pour permettre d'éclore un autre homme, l'homme nouveau, hors de cette chair. Donc pour le moment, si je vis dans cette chair, c'est cependant dans la foi que je vis. Non pas que j'espère, non pas que j'imagine, mais ma vie elle-même, c'est la foi que je suis un avec le Christ. Et que lui étant uni à son Père et à l'Esprit Saint, et à tous les hommes, en lui, par lui et avec lui, je suis aussi en communion avec le Père, le Saint-Esprit et le monde entier. C'est dans la foi que je vis, et saint Paul insiste, c'est dans la foi que je vis, celle du Fils de Dieu. C'est pas dans la foi que j'ai dans le Fils de Dieu, c'est la foi du Fils de Dieu, Jésus. C'est elle qui me sauve dans la mesure, qui me fait adhérer à son aide, dans la mesure, évidemment, où je m'engage moi aussi dans la foi, car la foi n'est pas une croyance, mais c'est un engagement de toute notre vie dans la vie du Christ. Entrant dans sa vie par la prière, par ma conversion, par mon renoncement au mal, par mon ascèse, par la vision que j'ai de ces fenêtres ouvertes sur l'éternité que sont les saintes écritures, que sont les icônes, que sont les liturgies. Tous ces moyens qui me sont donnés me font percevoir, me font adhérer, me font entrer, me font m'engager dans une foi réelle qui est la mise en application autant que mes forces me le permettent dans ce monde qui est le mien aujourd'hui et qui est le vôtre aussi, mais qui n'est pas selon le mode charnel, mais le mode de la foi. Et ce passage de saint Paul me fait penser et évoquer aux événements récents que nous vivons, le départ regretté pour nous de Mgr Amfilochié, avec lequel nous perdons un soutien profond pour notre monastère et pour nos personnes. Avec lui, nous perdons, selon la chair, nous perdons un véritable ami qui représentait, qui vivait, qui témoignait dans ce monde, qui témoignait de la pérennité, de la vigueur de ce que saint Grégoire Palamas expliquait de la transfiguration du monde et de nos personnes, disciple de saint Justin Popovitch. Il manifestait, il vivait, on le voyait vivre de cette transfiguration permanente par son œuvre, par sa prière et par son ascèse, par sa quiétude, par l'enthousiasme qu'il donnait pour suivre le Christ, et en même temps cet engagement apostolique qui le faisait épouser en s'offrant lui-même comme authentique sacrifice, comme authentique crucifié avec le Christ pour la cause du peuple qui l'entourait et dont il avait la responsabilité ecclésiale, spirituelle. C'est une perte, son départ est une perte amicale pour nous, qui nous marque beaucoup. C'est aussi, et je vous demande vos prières, une perte certainement pour le peuple dont il avait justement la responsabilité, qui se trouve dans des difficultés que nous expliquait l'an dernier, des difficultés cruciales, et pour lesquelles il se présentait comme un rempart, en risquant plusieurs fois sa vie, mais les circonstances, ses origines, faisaient qu'il était malgré tout, malgré l'opposition à laquelle il se heurtait, il était malgré tout respecté. Et avec son départ, c'est un rempart qui s'effondre. Tout est dans les mains de Dieu, pour nos personnes comme pour nos églises. Dieu n'abandonne personne, mais nous savons aussi que notre monde est particulièrement troublé. Et nous ne savons donc pas comment va évoluer le pays, pas forcément dans le sens où qu'il espérait. Et puis le deuxième événement que vous avez tous en tête certainement, bien sûr, je suis crucifié avec le Christ, nous fait penser à ce prêtre Nicolas de Lyon, qui vient d'être attaqué, merci, à coup de fusil à la porte de son église hier. Que Dieu le préserve, il n'est pas encore mort, que je sache. Sa vie étant gravement en danger, espérons qu'il en sortira, mais c'est un martyr en puissance, comme nous le sommes tous. L'Église maintenant, depuis toujours, depuis la crucifixion du Christ, l'Église est attaquée, diaboliquement attaquée, pour la faire tomber, de l'extérieur, comme c'est le cas, ou de l'intérieur. Nous étions prévenus depuis longtemps, depuis 2000 ans, que le monde évoluerait ainsi. Donc ça ne nous étonne pas. Certainement qu'on aura à en souffrir. Des pays en ont gravement souffert et en souffrent encore à une autre échelle que ce que nous souffrons. Mais nous entrons dans cette ère d'opposition visible. Rappelons-nous aussi qu'en France, on a connu des heures sanglantes contre le christianisme, encore au début du siècle qui vient de se passer et au long des siècles précédents. Donc, nous en avons aussi l'expérience, mais quelques années de relative paix, de relatif équilibre, nous avaient un petit peu endormis dans ce. Eh bien, que cette situation ne nous fasse pas peur. On peut craindre effectivement la souffrance et le martyre, mais que la situation en elle-même ne nous scandalise pas. C'est le moment, plus que jamais, d'accomplir ce que le Seigneur fait, puisqu'il est crucifié. Nous sommes crucifiés avec lui. Nous pouvons aussi, avec lui, avoir la même confiance, la même foi. Et le même amour, car entre confiance et amour, il n'y a pas grande différence. Et nous pouvons, à travers cela, tout en nous défendant raisonnablement, bien sûr, mais nous pouvons aussi apprendre à aimer nos ennemis, même si ce n'est pas payé de retour. Nous pouvons accepter par avance à passer par là où le Seigneur bénirait que nous passions, même par le martyre. Si nous sommes crucifiés avec le Christ, c'est une grâce qui nous fait peur, mais c'est une grâce parce que c'est de cette manière-là que la gloire du Seigneur se manifeste. Comment ? Vous ne croyez pas que rendre grâce à Dieu dans la persécution, accepter le martyre pour soi-même ou pour les autres, vous ne croyez pas que ça ne peut s'accomplir que si l'Esprit Saint agit en la personne, que si vraiment c'est le Christ qui est crucifié et qui souffre pour nous, j'allais dire en même temps que nous, à notre place. Lorsque nous sommes nous-mêmes, nous sommes crucifiés, ne croyez-vous pas que ce soit ça, précisément le témoignage absolu de l'incarnation, témoignage absolu que le Seigneur s'est fait un avec nous, qu'il s'est incarné et qu'il nous apporte ce qu'il est et ce qu'il a. Ne cultivons pas le ressentiment et la haine, protégeons-nous, pas à peine de nous exposer inutilement, mais que ne soyons pas, surtout pas, scandalisés par ces situations-là. Et je termine, puisque nos rencontres, nos liturgies, nos synaxes hebdomadaires ou quotidiennes ne vont pas être facilitées dans les temps qui viennent, j'en profite pour vous conseiller, vous engager à vous enfoncer davantage dans la foi. La foi comme engagement, c'est-à-dire même si vous êtes privé de liturgie, de communion, de sacrement, enfoncez-vous davantage dans la prière, pas dans les prières. Il ne s'agit pas de multiplier les prières, encore que ça puisse aider, mais il s'agit d'avoir une conscience, une expérience de notre communion avec le Christ, que notre foi soit une foi concrète. Le temps que vous passez à la liturgie du dimanche, si vous ne pouvez plus y aller, passez au moins le même temps chez vous pour prier autant que vous pouvez, comme vous le pouvez. Et enfin, je voudrais vous dire que le martyr nous fait peur à tous, parce qu'on n'aime pas, la souffrance. Mais si vous lisez les récits de martyrs, vous verrez que quand ils en étaient à cette extrémité où ils rendaient leur vie à Dieu, ils avaient conscience à ce moment-là, ils sentaient, ils voyaient que c'était Dieu, le Christ, qui souffrait à leur place. Je n'ai pas dit avec eux, mais je dis à leur place. Vous voyez saint Étienne, le proto-martyr, quand il tombe sous les pierres avec lesquelles on le lapide, il dit « Je vois le ciel ouvert et le Christ descendre ». Vous voyez, les expériences, les multiples expériences de saint Paul, où il dit lui-même combien de fois il a été battu, combien de fois il a été lapidé, combien de fois il a... À chaque fois, c'était pour saint Paul l'occasion d'une expérience mystique où Dieu, le Christ, lui apparaissait et lui faisait connaître les mystères de la vie avec Dieu qui nous ont valu les récits, les lettres, les épîtres qui nous ont illustrés, qui nous ont ouvert la connaissance du mystère de la relation qui existe entre le Jésus et nous-mêmes. Regardez les multiples saints qui, au moment de leur mort, ont eu quelques mots pour dire « Maintenant, j'ai vu. Maintenant, je vois la lumière divine. » Et dans l'évangile que nous avons entendu du mauvais riche et de Lazare, on voit que le mauvais riche, dans un lieu de damnation, dans un état de damnation, demande à Lazare qu'il supplie le Père éternel d'envoyer dans sa famille quelqu'un qui lui explique, qui leur dise de ne plus faire le mal, parce que sans quoi ils auraient à souffrir comme lui. Il lui est répondu qu'il y a un abîme entre un état de vie et un état de vie éternelle et l'autre état. Oui, il lui dit, mais il lui est répondu que même si quelqu'un redescendait sur terre, personne, on ne croirait pas davantage. Eh bien, renseignez-vous, faites attention, mais aujourd'hui plus que jamais, c'est par millions les témoignages que nous avons, non pas de ressuscités qui viennent vivre avec nous, s'asseoir à notre table, mais des gens qui font l'expérience de leur vivant ou d'un entre-deux de cette conscience de ce qu'est la vie de l'au-delà, et qui, bien qu'ils le racontent avec force détail autour d'eux, ne sont toujours pas crus. Et pourtant, cela existe. Et vous en connaissez tous autour de vous. n'en tirez pas trop de conclusions ésotériques non plus, ça c'est pas, je ne vous encourage pas à ça. Mais la preuve en est que malgré ces récits de gens qui reviennent de l'au-delà, qui reviennent avec la connaissance de Dieu, quoi qu'ils en disent, ça ne donne pas, ça ne communique pas l'expérience aux autres.